Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce mois d'avril, voici une émission d'Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, consacrée à un livre tout récent sur un sujet qui depuis très 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 longtemps nous fascine, le roi Juba II. Roi numide élevé à Rome pour des raisons qui vont être rappelées par notre invité. Et notre invité, c'est Stéphanie Guédon. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors, nous allons vous présenter dans un petit instant, bien sûr, mais c'est l'occasion de faire une incursion donc, auprès de ce roi si fascinant et dans cette terre si ancienne, dont j'ai coutume de dire que c'est la région du monde qui a parlé le plus longtemps la langue latine et qui ne doit bien sûr pas renier ses origines-là. Alors, vous, Stéphanie, vous allez nous expliquer pourquoi, mais j'ai une petite idée, vous vous êtes passionnée pour ce roi Juba II. Vous êtes, si mes renseignements sont bons, maîtresse de conférences, alors maintenant à Nantes Université, après avoir été à l'Université de Limoges, n'est-ce pas ?
Alors, je suis professeure d'histoire romaine à l'Université de Nantes, mais après avoir été effectivement maîtresse de conférences en histoire romaine à l'Université de Limoges.
Voilà. Et en tout cas, dans ce cursus universitaire parfait, vous avez à chaque fois eu à cœur de voyager dans l'Afrique romaine, de vous intéresser à ce passé de l'Afrique et l'héritage de l'Antiquité au Maghreb. Donc, vous avez déjà publié sur le sujet, à la frontière romaine de l'Africa sous le Haut Empire, qui vous a valu le prix Serge Lancel en 2020, prix de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc, je pense que vous devez en être très fière.
Bien sûr, c'est une belle reconnaissance. Alors, il est vrai que je fais partie de cette communauté. Je trouve que le nom n'est pas très joli, puis il est un petit peu vieilli des africanistes. C'est une façon de dire finalement que les spécialistes de l'Afrique au sein de l'histoire du monde romain occupent une place un petit peu particulière, mais qu'il faut aussi sans doute assumer. En tout cas, le Maghreb est mon terrain de recherche depuis mes premiers moments d'initiation à la recherche à l'université.
Alors, ces premiers moments ont-ils été précédés à l'école d'une passion pour l'Antiquité ou bien est-elle venue après ?
Je dirais qu'elle est venue après, elle est venue par l'archéologie. L'archéologie, c'était la discipline qui m'animait à la sortie du bac et c'était vraiment ça que je voulais étudier. Puis, par des concours de circonstances, j'ai fait un double cursus archéologie et histoire. Et puis finalement, eh bien, j'ai découvert que l'histoire m'intéressait encore plus que l'archéologie. Alors, je n'ai pas complètement laissé tomber l'archéologie, mais je suis devenue historienne. Tout à fait.
Et j'imagine sans regret aucun, puisque c'est votre passion.
Absolument aucun. J'ai la chance de vivre, ouais, tout à fait, avec un métier qui est une véritable passion. Et c'est extrêmement précieux parce qu'on a l'impression que le temps passe très vite.
Oui, ça je...
Même trop.
Alors, ma question va sembler, surtout de la manière dont je vais la formuler, un petit peu superflue, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce roi qui avait tout pour lui, hein, beau, cultivé, voire érudit, ce roi berbère, revenu au pays, fonder sa ville, on va en parler, après avoir fait ce petit séjour à Rome, dont vous allez nous expliquer le pourquoi et le comment. Comment êtes-vous venu à travailler sur Juba II ?
Alors, j'y suis venue pour deux raisons principales. Je dirais à la fois une raison personnelle. C'est un peu Juba qui m'a appelée. C'est très prétentieux de le dire. Mais très souvent, quand on est historien, on s'intéresse d'abord aux faits, aux événements. Et puis finalement, on a peu le temps de s'attarder sur les individus qui font les événements et sur leur identité, leur vie. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie, dès le lendemain de ma thèse, j'avais envie de m'attacher à quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, de connaître en profondeur une personnalité de l'Antiquité. Donc c'était déjà une, je dirais, une première démarche personnelle. Juba est arrivé au bon moment. Pourquoi Juba? Parce que je l'ai croisé à différentes reprises au cours de mes recherches, en me rendant bien compte que c'était un individu que l'on connaissait finalement mal et sur lequel on avait écrit des choses complètement contradictoires. Et c'est ce qui m'a fascinée chez Juba. En fait, on a dans ce personnage à la fois, eh bien, une fenêtre ouverte sur l'Antiquité, mais aussi une fenêtre ouverte sur notre monde contemporain, tant il a été investi par cette histoire violente des rapports à l'époque contemporaine entre l'Europe et plus particulièrement la France et le Maghreb.
Alors, je n'ai pas cité le nom du livre, mais il parle lui aussi tout seul. Votre livre, paru aux Belles Lettres, s'appelle Juba II, l'Afrique au défi de Rome. Alors, ce roi, effectivement, qui est fascinant, et moi, je me souviens d'une très belle exposition au Mucem qui lui avait été consacrée, et exposition dans laquelle on avait aperçu ce buste que vous proposez sur la couverture de votre livre. Effectivement, il n'est pas étonnant qu'on écrive beaucoup de choses contradictoires, parce que c'est un mélange étonnant, ne serait-ce déjà par ses origines, donc un prince berbère qui descend de Massinissa, mais dont le nom n'est pas tout à fait Juba, mais Jobaï, si on prend son nom punique. En fait, déjà aux origines, il est un mélange.
Oui, tout à fait. Alors, je m'en explique en introduction. Moi, je n'emploie pas le qualificatif berbère, non pas pour faire polémique ou pour me distinguer. Simplement, dans l'Antiquité, ce n'est pas un mot qui est employé.
Bah de même que Maghreb,
Donc,
ça, ce sont des mots,
tout à
effectivement.
fait,
Voilà.
ce sont des mots très contemporains. Alors, il est vrai que je fais usage du mot Maghreb dans une finalité qui est purement géographique. Le mot berbère, c'est un peu compliqué parce que là, on est dans une appartenance culturelle qui a une existence, bien sûr. La communauté berbère existe et elle a fait œuvre de lutte au XXe siècle justement pour obtenir cette reconnaissance qui est absolument importante. La question étant de savoir jusqu'à quand on peut faire remonter ces liens communautaires. Alors, dans l'Antiquité, pour faire simple, les sources nous évoquent, mais sous des noms latins, bien sûr, un certain nombre de populations, mais à aucun moment il n'y a, vous voyez, ce mot fédérateur. Qui serait celui de berbère, même si bien sûr on retrouve des liens très forts qui restent aussi à élucider entre les écritures antiques dans l'Afrique libyque, on va dire, hein, on parlait des écritures libyques, et aujourd'hui cette langue berbère. Mais voilà, pour ne pas mélanger non plus toutes les périodes, j'ai préféré, et d'un point de vue historique, ça a été démontré, ne pas utiliser ce qualificatif de berbère. Pour revenir à la multiculture,
Oui.
si on peut dire, de Juba, elle est effectivement très forte et elle est fascinante. Elle est fascinante parce que elle est sans doute exceptionnelle aussi. Chez lui, vous venez de le rappeler, c'est un petit garçon quand il arrive à Rome. On ne sait pas très bien vers quel âge, peut-être vers 4-5 ans. Ce que l'on sait simplement, c'est que il est mentionné pour la première fois dans les sources, alors des sources romaines qu'il évoque. Nous n'avons pas de sources, malheureusement, qui viennent des royaumes africains eux-mêmes, de sources écrites, j'entends, de sources littéraires qui ont pourtant existé, mais qui ont disparu. Ces sources romaines nous l'évoquent comme un petit enfant qui est là devant le char de César lorsqu'il célèbre son triomphe sur le royaume numide, c'est-à-dire le royaume qui appartenait au père de Juba. Donc il est tout jeune, il va grandir à Rome, il va grandir dans des circonstances qui nous échappent, mais on pense dans l'entourage de César, puis ensuite dans
D'Auguste.
l'entourage de celui tout à fait qui va devenir le premier empereur, hein, c'est-à-dire Auguste. qui est le fils adoptif de César. Et c'est là qu'il vit sa jeunesse, dans cette ville romaine en pleine effervescence politique à ce moment-là. C'est la montée en
Alors,
puissance d'Auguste et il est au cœur de cette famille qui est en train de prendre un ascendant exceptionnel. Et on voit qu'en même temps, une autre culture
voilà,
l'attire très
parce que
fortement.
ce que j'aimerais que vous rappeliez avant qu'on parle de cette vie d'otage, en quelque sorte,
Oui.
c'est au tout début, quelle est cette multiculture? Parce que la zone géographique qu'il habite, d'où il vient, est vraiment compliquée.
Elle est compliquée, disons qu'elle nous est
Oui.
compliquée à nous, historiens, bien sûr, pour essayer de recomposer le pulse. C'est déjà une zone, ce nord de l'Afrique, qui connaît des influences culturelles multiples, on pourrait dire. Il y a bien sûr la culture libyque, c'est-à-dire la culture des populations qui étaient là avant que Carthage ne fasse sa conquête d'une partie du nord de l'Afrique, et puis Carthage elle-même a développé sa propre culture, qu'on appelle la culture punique. Donc un mélange culturel va déjà se faire, et on voit bien que cette culture punique, elle commence aussi à imprégner des territoires tels que le royaume numide, c'est-à-dire le royaume dans lequel est né Juba. Hein, la langue punique est véritablement devenue un langage politique. C'est en langue punique que les rois numides font frapper monnaie, par exemple. Donc, vous voyez, il y a une influence très forte, en tout cas de la culture punique dans le royaume numide, et également une influence hellénistique que l'on perçoit à Carthage même, et puis que l'on perçoit au-delà également dans le royaume numide. Donc c'est dans ce mélange culturel que naît Juba. Savoir ce qu'il en a gardé avant d'arriver à Rome, là est toute la question, bien sûr, à laquelle il est très difficile de répondre, tant son âge était très jeune.
Alors, nous allons marquer une petite pause musicale avec une musique que j'ai extraite d'une nouvelle pièce de théâtre Juba 2 qui a été donnée en 2018 à Tizi Ouzou. Et après, Stéphanie, nous nous retrouvons pour évoquer ce Juba 2 otage et puis ensuite roi. À tout de suite.
See you.
Alors, vous êtes sur Radio Alliance Plus et c'est l'émission Antiquissimo consacrée à Stéphanie Guédon et à son livre tout récent paru aux Belles Lettres, un livre passionnant, très documenté, avec un nombre de sources incroyables quand on regarde la fin du livre. Et je le signale tout de suite parce que j'ai beaucoup aimé une très belle carte qui se trouve donc après le livre lui-même. Beaucoup d'illustrations, mais une très belle carte du nord de l'Afrique au temps de Juba II. Et j'incite tout le monde à se plonger, en même temps que dans l'histoire, dans la géographie. Alors, nous retrouvons donc ce livre « Juba II, l'Afrique au défi de Rome », écrit par Stéphanie Guédon aux Belles Lettres. Et nous allons évoquer maintenant, elle a commencé déjà, Stéphanie, à nous dresser un petit peu l'ambiance, l'histoire. Eh bien, Juba II, lorsqu'il est sur le Palatin, pris en otage, alors peut-être qu'il faut discuter sur ce mot, et à la cour d'Auguste et dans la maison d'Octavie. Alors, je vous laisse nous expliquer ceci.
Effectivement, Juba est emmené comme otage, on peut véritablement employer le mot. Hein. César vient de faire la conquête du royaume de son père, Juba Ier, qui n'était pas l'objectif premier, sans doute, hein. Un objectif qui s'est révélé, une sorte de rêve peut-être aussi pour César de s'emparer de ce royaume numide. On sait qu'il courait déjà à Rome chez ses partisans. En tout cas, il vient d'abord lutter contre son camp adverse, qui était le clan de Pompée en Afrique. Donc, pour faire simple, on va dire que la guerre civile qui se déroulait à Rome entre César et Pompée joue son dernier acte en Afrique. Il se trouve que Juba Ier, le père de notre jeune Juba II, a pris parti pour le parti pompéien, et c'est le parti qui sera vaincu par César. César, lorsqu'il revient à Rome, revient avec un otage, nous disent les sources, hein, et cet otage, c'est ce petit enfant, Juba II. Pourquoi l'a-t-il choisi? Pourquoi n'a-t-il pas ramené d'autres membres de la famille de Juba Ier? Tout cela, nous l'ignorons. On pense qu'en fait, Juba II avait l'intérêt pour César de porter le nom de son père, et qu'il était donc une preuve vivante du succès qu'il venait de remporter sur le royaume de Numidie. Or, on sait qu'à Rome, pour célébrer un triomphe, il faut avoir remporté une victoire éclatante contre un État étranger. Donc, vous voyez, la preuve était là, incarnée par ce petit enfant qui marche devant le char de César. On sait que Juba II reste toute sa jeunesse à Rome, dans des circonstances qui nous échappent, mais dont on pense en tout cas qu'elles se sont déroulées dans les meilleures conditions. Effectivement, il ne faut pas se dire que le statut d'otage était systématiquement un statut qui vous plongeait dans la misère la plus totale à Rome. Il y a eu des précédents. On le sait par exemple avec Polybe, qui est un auteur grec qui va fasciner aussi Juba II. Donc on pense que Juba va grandir peut-être au départ auprès de César et puis ensuite dans la maison d'Octavie, qui est la sœur d'Auguste et qui accueille en son sein un certain nombre d'enfants, y compris ses otages royaux. Et on peut penser à d'autres otages fameux.
Parce que c'était quand même une femme
appartiennent.
Assez étrange, une vraie matrone romaine, puisqu'elle a élevé 7 enfants qui ne sont pas seulement ses enfants à elle, mais des enfants qu'elle a recueillis, y compris les enfants de Cléopâtre, dont nous allons reparler après. Donc, notre Juba II se trouve chez elle.
Exactement. Il faut imaginer une maison sans doute tenue de main de maître. Je ne dis pas de main de fer, on l'ignore, même si, bien sûr, on a cette image souvent austère d'Octavie, ses portraits aussi, qui auraient tendance à nous en convaincre. Des enfants qui appartiennent à la fois à la maison d'Octavie, à la maison d'Auguste, et puis ces enfants étrangers qui sont là otages et qui bénéficient très probablement, du fait aussi de leur statut royal, de cette meilleure des éducations. Alors, il y avait un intérêt politique évident, on le sait, hein, pour Auguste, d'entretenir, comme César l'avait fait avant, aussi ce vivier de petits enfants étrangers d'essence royale, parce qu'ils espéraient en faire les meilleurs serviteurs de Rome ensuite et participer à l'éclat de Rome.
Et donc, bon an, mal an, le voici qui va se trouver, et on sera amené donc à parler de Cléopâtre Sélénée dans un instant, qui va se trouver, entre guillemets, récompensé par Auguste, qui lui donne, alors je ne sais pas si on peut dire donner, qui lui donne ce mariage, et puis un titre de roi.
Tout à fait. Juba va s'illustrer dans une campagne militaire auprès d'Auguste. Disons qu'il fait sans doute la preuve qu'Auguste attendait, qu'il était prêt pour des charges importantes et en particulier qu'il avait la compétence militaire pour le faire. Cette campagne s'est sans doute déroulée en Espagne. En tout cas, au lendemain de cette campagne, Auguste lui donne un nouveau royaume. Il crée un royaume, littéralement, en Afrique, qui comprend à la fois la terre de ses ancêtres et puis une partie plus occidentale qui était l'ancien royaume maure. Auguste lui donne aussi, et on peut employer le mot parce que sans doute c'était là l'esprit dans lequel ça a été
Oui,
fait,
oui.
lui donne en mariage Cléopâtre Sélénée, à qui on n'a certainement pas demandé son avis. Et de nouveau, on voit la main d'Octavie, hein, qui intervient puisque les auteurs antiques nous disent que c'est elle qui a
Oui.
marié les deux. Hein. Donc on sent bien qu'elle était, hein, au cœur du projet et c'était une femme qui avait l'oreille de son frère, un fin stratège politique aussi, je pense, une femme extrêmement intelligente, calculatrice, comme l'était son frère. Et donc nos deux jeunes se retrouvent mariés, ils se connaissaient probablement, ils ont dû se
Oui,
côtoyer dans la
certainement.
maison d'Octavie, mais sans qu'on leur ait véritablement, je pense, demandé leur avis. En tout cas, ils s'embarquent tous les deux pour l'Afrique.
Mais ils ont des choses en commun, tous les deux, hein?
Ils ont bien des choses en commun et je pense, du moins c'est ma conviction, j'en sais rien, mais enfin je ne le sais pas par les sources, je pense que c'est ce qui les a soudés
Oui.
aussi, finalement. C'est à la fois ce destin tragique, hein, la perte de leurs parents qui sont tués sous les armes de Rome, bon, même si les parents de Cléopâtre se suicident. Mais enfin, voilà, ce sont des enfants de rois vaincus, de rois défunts devant Rome, qui doivent se reconstruire, que l'on fait grandir un temps à Rome, et puis que l'on envoie comme ça, très loin, diriger un nouveau royaume. On peut se demander ce qui leur est passé par la tête au moment où ils ont traversé la Méditerranée, justement, pour gagner leur nouveau royaume. J'aurais tendance à penser peut-être un sentiment de liberté, fuyant, en tout cas, quittant Rome où là ils étaient otages, et bien en naviguant sur la Méditerranée vers leur nouvelle terre, ils étaient cette fois rois d'un nouveau royaume.
Alors, avec une petite différence quand même, c'est que Cléopâtre Sélénée, elle a dans ses gènes du sang romain, du sang latin, puisque elle est la fille de Marc-Antoine.
Tout à fait. Elle est la fille de Marc-Antoine, mais on voit, quand elle s'installe, en tout cas à Césarée, qu'elle aura surtout à cœur de rappeler ses origines égyptiennes. C'est quelque chose qui lui est extrêmement important. Alors, malheureusement, de Sélénée, on sait très peu de choses. Hein. C'est vraiment une femme énigmatique. On en a les monnaies pour nous donner l'image, mais les sources très vite ne nous parlent plus d'elle. Et c'est vraiment par bribes que l'on, disons, tente de reconstituer son existence ici auprès de Juba II. Et on voit bien qu'en tout cas, elle a à cœur de montrer qu'elle est une reine d'origine égyptienne.
Et
Hein,
donc
ça, c'est
avec
vraiment
une
très
culture
important.
hellénistique, elle aussi, forcément.
Tout à fait, une culture qui est imprégnée d'hellénisme. Et c'est d'ailleurs cette culture aussi qu'avec l'accord de Juba, qui lui est pleinement acquis à cette culture à laquelle il a été initié, à laquelle il a goûté pleinement à Rome, c'est cette culture qui va imprégner également l'image qu'il donne à leur nouvelle capitale, Césarée.
Alors justement, on va parler un petit peu de cette capitale et de son nom d'aujourd'hui. Et justement, vous parliez des médailles. C'est quand même assez exemplaire que sur ces médailles, Juba, pas tout de suite, mais rapidement, impose alors son portrait à lui, c'est normal, et celui de Séléné, comme si vraiment ces deux-là avaient fait une sacrée paire.
C'est exactement le mot. Je pense qu'il formait une sacrée paire. Du point de vue des sentiments, je ne peux pas me prononcer, mais je pense que quoi qu'il arrive, il y a eu une affection entre eux. En tout cas, on le voit bien dans le couple officiel qu'ils forment. Juba, effectivement, fait une place à Séléné et continuera à lui faire une place sur ses monnaies. Après la mort de Séléné, on voit bien que tous les symboles égyptiens ne disparaissent pas. Il y a toujours une forme d'hommage à sa mémoire qui est très présente. Et on voit bien qu'ils ont conçu une image de leur couple qui se manifeste fortement sur leur monnaie. Et Juba, en cela, est tout à fait remarquable par la place qu'il fait à son épouse. Il n'avait aucune obligation à le faire. Mais il le fait peut-être par affection personnelle pour elle. Il le fait aussi, disons-le, par intérêt politique, mais les deux vont ensemble et cet aspect sert aussi Cléopâtre. C'est une façon de montrer que son royaume est dans la continuité du royaume des Ptolémées. Il en serait une sorte de prolongation, ce qu'il tente aussi de démontrer par la géographie.
Alors, cette reine Lagide, qui a été formée sur les volontés de son père par Nicolas de Damas au début, je pense, quand elle était toute petite, est-ce qu'on sait vraiment comment elle est morte?
On l'ignore. On l'ignore. Alors, ce sont les mots de Crinagoras de Mytilène qui évoquent par une éclipse de lune, si je me souviens bien ces mots, la disparition de la reine par métonymie, mais on ignore complètement les circonstances de sa mort, comme on ignore aussi ce qu'elle est advenue aussitôt après son mariage. En fait, les derniers mots que l'on a d'elle, ce sont les mots qui rapportent son union avec Juba II. Au-delà de tout ça, il y a les images laissées par les monnaies, et puis bien sûr le souvenir aussi du fils qu'ils ont eu en commun. Mais d'elle-même, beaucoup de choses nous échappent.
Ça reste un mystère et en même temps, on a envie d'adhérer à cette belle histoire de ce couple et de cette multiculture qui vit et qui crée à Césarée, donc une cité. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot, bien qu'il nous reste peu de temps, de cette cité créée de toutes pièces par Juba II?
Oui, quelques mots rapides. Il crée cette cité à un endroit qui connaissait déjà une occupation. C'était l'antique cité de Yole. Mais ce n'était pas une très grande cité, en tout cas à la mesure de celle que Juba va créer. Juba crée une véritable ville, des monuments publics en particulier, bien sûr, des palais, des édifices de spectacle, inspirés à la fois de ce qu'il a connu à Rome, en particulier pour les édifices de spectacle, et inspirés également par l'architecture hellénistique. Et pour donner une petite image, on voit combien Césarée pouvait aussi ressembler par bien des aspects à Alexandrie, c'est-à-dire cette cité qu'avait connue Cléopâtre.
Et cette cité, aujourd'hui, elle a un autre nom, si on veut la retrouver.
Tout à fait, c'est aujourd'hui l'endroit où s'élève la ville moderne de Cherchell, en Algérie.
Donc, on est à mi-chemin entre Sirta, Constantine, qui m'est chère, et de l'autre côté, il y a quoi?
Bah de l'autre côté, on va toucher progressivement au pays mort, hein,
Oui.
à l'ancien royaume mort. Donc, c'est-à-dire, on va en direction du Maroc actuel. Et ça nous donne bien aussi cette image de culture. On est à la croisée de
Oui.
culture à Césarée. Hein. Juba va régner sur un royaume qui compte à la fois des morts, des Numides, des Romains également de plus en plus, et tout cela sous une influence culturelle qui compte aussi avec l'hellénisme.
Alors malheureusement, nous avons écoulé tout notre temps, mais les auditeurs auront à cœur de se précipiter sur le livre où ils verront par exemple combien ce roi était, c'est le titre de l'un de vos chapitres, entre suggestion et indépendance, un roi fascinant que je vous remercie de nous avoir permis d'approcher un petit peu, Stéphanie. À bientôt.
À bientôt, je vous en remercie beaucoup.
Au
Au revoir.
revoir.